يا إله الكون قد أسلمت لك يا إله
comprendre l'islam
قد أسلمت لك يا إله
une émission conçue et présentée par Saïd Bouterfa et Kamel Chekat.
ربي فاغفر زلتي ما أحكمك
réalisé par Youssef Najimi.
مدحة طاغية تبهر البدر بليل محتلك.
Monsieur Kamel Chekat, bonjour. Dans l'émission Comprendre l'islam, nous allons parler donc de la contraception. Alors, il n'y a pas aujourd'hui une position unique de l'islam sur la contraception, car il y a plusieurs écoles, vous n'êtes pas d'accord sur le terme plusieurs écoles, mais vous me le direz pourquoi, qui ont des lectures du texte donc sacré divergentes. Et donc, il est dans la logique des choses que ces écoles répondent aux problèmes nouveaux que posent donc les phénomènes que sont la contraception. Pourquoi, parfois, on lit, il y a plusieurs écoles. C'est pourquoi vous n'êtes pas d'accord?
Non, il n'y a pas plusieurs écoles en la matière. Il y a plusieurs avis. Parce
oui.
que finalement, les quatre plus grandes écoles du droit musulman, qui sont le madhhab, le hanafi, le maliki, le shafi'i et le hanbali, sont unanimes.
Ça, ce sont des écoles.
Ce sont des écoles, oui. Ce ne sont pas des doctrines, comme voudraient
d'accord.
certains. Ce sont des écoles parce que chacune des écoles a sa propre méthode d'interprétation du texte. On appelle ça l'usul, les fondements même de l'école. Donc, il y a plusieurs avis. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà, à la base, plusieurs types de contraception. Certaines sont licites, d'autres ne le sont pas, selon les juristes. Alors, il faut tout d'abord savoir que, quand nous parlons de contraception en islam, la référence que nous avons, c'est le coït interrompu, ce que nous appelons en langue arabe l'azl. On peut appeler ça aussi le retrait.
À quel moment c'est toléré ?
Oui.
Puisque dans le livre sacré, on lit que toute vie humaine est considérée comme sacrée,
c'est
de
vrai.
La conception à la mort naturelle. La fécondité est une bénédiction et la procréation est recommandée.
Oui. Alors,
à quel moment donc elle est...
Donc voyons d'abord ce qui se pratiquait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fera un point de départ pour notre émission. Mm-hmm. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque du prophète, on pratiquait l'azl, le coït
oui.
interrompu. Comment le prophète voyait-il la chose? Alors tout d'abord, il y a un avis qui est contre l'azl. Cet avis qui est d'Ibn Hazm, qui est le ténor de l'école dahirite. C'est une école qui va se limiter essentiellement à la lettre du texte, qui essaye de ne pas trop faire de recherche dans l'esprit même du texte. Donc c'est l'avis d'Ibn Hazm et de Hassan al-Basri, qui sont tous deux de grands savants. Ce hadith est rapporté par Muslim d'après Judamah bint Wahb ukht Ukasha قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس فسألوه عن العزل فقالت ذلك الوأد الخفي. Elle a assisté à un rassemblement où se trouvait le prophète alayhi salatu salam et on l'interrogea sur le coït interrompu, sur le retrait. Il a dit ceci est la suppression dissimulée. L'ouad était une pratique chez les Arabes païens de l'ère anté-islamique qui consistait pour parer à tout déshonneur, d'enterrer vivante une fille en bas âge. C'est une pratique qui a été condamnée par le Coran.
On enterrait, alors, pas parce que l'enfant n'était pas reconnu, on enterrait parce que c'était une fille.
Parce que tout simplement, c'était une fille.
Ouais. D'accord. « Ida bushira
ahaduhum bil untha, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih, ayumsikuhu ala hawnin am yadussuhu fit turab. » Et puis Dieu dit combien est mauvais leur jugement, c'est-à-dire que quand on annonçait à l'un d'entre eux la naissance d'une fille, il était envahi d'une colère intense et son visage s'assombrissait et il ne savait plus quoi faire. Devait-il garder ce fardeau, ce lourd fardeau, ou devait-il l'enterrer? Et c'est ce que préférait la majorité.
Alors, monsieur Chekat,
l'azl a été qualifié dans ce hadith de Muslim par le prophète alayhi salatu salam de suppression dissimulée, ce qui suggère que la chose n'est pas tolérée. Et d'ailleurs, Omar ibn Khattab, Uthman ibn Omar et Abu Umamat al-Bahili étaient était contre l'azl, qui est une forme de contraception appliquée par les Arabes. Nous avons un autre avis, qui est celui des quatre imams, qui est celui de Malik, d'Abu Hanifa, de Shafi'i, de l'imam Tahawi, l'imam al-Ghazali. Ces gens-là s'appuient sur un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim, d'après Jabir, qui dit « Kuna na'zilu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa al-Qur'an yanzil » Nous pratiquions le retrait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le Coran était en cours de révélation. C'est-à-dire que si la chose avait été mal vue par Dieu, la moindre des choses aurait été qu'il y ait une révélation interdisant l'acte. Dans une autre version qui est celle de Muslim, Jabir dit « Kuna na'zilu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam » Nous pratiquions ça à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Fabalaga dhalika Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam falam yanhana » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le sut et il ne nous l'interdit pas. Donc ceci suggère que le coït est interrompu est parfaitement licite. Un autre hadith rapporté par Ahmed et Abu Daoud d'après Abu Saïd al-Khudri qui dit un homme est venu dire au prophète alayhi salam que les juifs qualifiaient le retrait de, en langue arabe, maw'oudatu sughra, la petite suppression. Et le prophète alayhi salam a dit kadhabat yahoudu law arad Allahu an yakhluqahu mastata'ta an tasrifah. Les juifs ont menti, si Dieu avait voulu qu'il y ait conception, tu n'aurais jamais pu l'en empêcher. Dans ce hadith et le premier de Muslim, il y a une contradiction. Dans le premier, le prophète qualifie le retrait de wa'trafi, de suppression dissimulée. Dans ce hadith, il dit les juifs ont menti. Il faut comprendre une chose. Le prophète alayhi salatu wasalam répondait à chacun selon la question qu'il lui posait, selon les spécificités du demandeur. Il se pourrait que dans le rassemblement dans lequel se trouvait le prophète alayhi salatu wasalam, les gens prenaient ça à la légère. Il a dit dhalika al-wa'd al-khafi.
Alors oui,
mais la chose est parfaitement tolérée par les quatre imams, sauf que l'imam Ahmed donne une condition. Il met comme condition de validité le consentement de la femme, parce que interrompre le rapport alors qu'il a atteint son moment culminant du point de vue purement physique, peut gêner quelque peu la femme.
Mais c'était, même si c'est une situation qui n'est même pas, qui est aussi pas idéale pour l'homme, ça il faut le dire. Mais à quel moment, donc on a commencé à parler de contraception, vous parlez d'interruption, de hazl, à quel moment il était recommandé? Est-ce que pas quand la femme allaitait ou alors quand il y avait trop d'enfants?
Il n'y a pas.
Parce que là, on se met dans le contexte de l'époque, on faisait des enfants, mais on n'avait pas le problème économique qu'il existe aujourd'hui.
Non, mais il y avait. Dieu disait aux Arabes de l'ère pré-islamique wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté, c'est nous qui pourvoyons à votre subsistance et à la leur.
D'accord.
Il arrivait que les gens tuaient leurs enfants par contrainte économique. Ça arrivait. La guerre faisait ça, la pauvreté le faisait aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les premiers savants de la scolastique musulmane ont parlé de contraception, il est clair que c'était un débat purement juridique, mais qui se faisait, comme je l'ai dit, lors de la journée mondiale de la contraception qui s'est déroulée tout récemment, qui a été organisée par l'association algérienne du planning familial. Donc le débat s'est fait sur fond philosophique. Maintenant, quand des féministes vous parlent de contraception, on parle de contraception en tant que droit pour la femme. Alors que quand les théologiens musulmans en parlent, ils en parlent comme une chose qui est faisable, qui est possible, qui est licite à un moment donné de la vie. C'est un choix à faire. C'est-à-dire, si je pose le problème actuellement et que je doive le résoudre selon la loi musulmane, nous avons actuellement des femmes qui travaillent. Donc il y a le fait de ne pas espacer les grossesses pourrait justement mettre la femme à rude épreuve. Il y a aussi la contrainte économique. La contraception est possible, est envisageable, à condition que le couple n'ait pas été forcé à le faire. C'est un choix, c'est une démarche qui ne dépasse pas le cadre du couple. C'est à l'homme et à la femme et à sa conjointe de décider de passer à la contraception.
Donc, on a bien compris qu'on s'adapte selon le temps et, le siècle, c'est
et
ça.
Et compte aussi parmi les hadiths, il y a un hadith de Muslim d'après Usama ibn Zayd, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit ya Rasulallah, inni a'zilu 'an imra'ati. Je pratique le retrait quand je suis avec ma femme. Le prophète lui dit لما تفعل ذلك؟ Pourquoi le fais-tu? فقال الرجل أشفق على ولدها أو قال أشفق على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ضارا ضر فارس والروم. L'homme a dit j'ai de la compassion, j'ai de la pitié pour ses enfants. Ceci veut dire que la femme devait avoir des enfants qui n'étaient pas encore sevrés et l'homme en question ne voulait peut-être pas qu'elle tombe enceinte pour ne pas compromettre les chances des nourrissons quant à avoir une bonne alimentation, par exemple. Donc, l'homme, dans ce problème qu'il pose au prophète, alayhi salatu salam, n'a Dieu que pour l'intérêt de ses enfants et celui de sa femme. Et puis, quand vous lisez le Coran suggère qu'il est possible qu'il y ait espacement entre les naissances. Le verset 233 de Sourate Baqara, que dit-il? Il dit...
Pour pouvoir allaiter l'enfant, c'est déjà ça, l'allaitement est primordial.
Les mères allaitent leurs enfants 2 années révolues pour qui veut pousser l'allaitement à son terme. Il est recommandé d'allaiter l'enfant pendant 2 ans. Et le fait d'allaiter l'enfant pendant 2 ans suggère que la femme est en droit d'espacer les naissances. D'autre part, dans le même verset, il est dit فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. Si les parents tombent d'accord pour décider le sevrage, nul grief ne leur sera fait. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. Ceci suggère aussi que dans les affaires de couple, l'homme n'est pas la seule autorité. Les choses doivent se faire d'un commun accord. Il doit y avoir un consensus, en quelque sorte. Et c'est pour ça que, quand les premiers parlaient de contraception, ils avaient ces données en tête. Et en plus, on pense beaucoup plus à ce qui peut mettre à l'aise le couple plutôt qu'autre chose. Ce qui fait que, quand on parle de contraception en islam, ça n'est ni un devoir, ni un droit. C'est un choix auquel nous passons à un moment de la vie.
En tout cas, ce n'est pas péché, c'est ce qu'il faut retenir.
Certaines formes de contraception ne sont pas licites.
Lesquelles, par exemple?
Alors, ce qu'on appelle les contraceptions post-conception, c'est-à-dire toute contraception...
La pilule est licite.
Certaines pilules le sont, d'autres ne le sont pas, parce que certaines pilules vont empêcher qu'il y ait rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. D'autres vont empêcher l'anidation.
Ce qui entraîne, aujourd'hui, les scientifiques disent, d'une stérilité secondaire. La femme peut devenir stérile si elle pratique cette forme de pilule.
Ça, c'est beaucoup plus à un médecin qu'il va falloir le demander. Ce n'est pas ma spécialité.
Non,
mais il y a aussi ce que certains qualifient de contraception irréversible. Là, nous ne sommes plus dans la contraception, c'est de la stérilité, tout simplement, comme la vasectomie, ou bien la ligature.
Il y a des femmes, après avoir pris plusieurs années de pilule, je peux vous dire, elles connaissent une stérilité secondaire.
Ça fait peut-être partie des effets.
C'est lié à l'empêchement de l'anidation. Je vous suis là.
C'est possible. Ou bien ce sont les effets secondaires de certaines formes de pilule.
Je reviens sur la question. Vous dites que la contraception, elle devient licite dans la mesure où il y a certaines pilules qui empêchent une nidation.
Non.
Que ça veut dire qu'il faut connaître un peu le générique
de toute manière,
de la pilule.
Il y a actuellement des congrès internationaux qui se tiennent périodiquement et où on parle du sujet. Et là, les juristes, il y a beaucoup de médecins qui y assistent aussi, dressent généralement des listes de ce qui est licite et de ce qui ne l'est pas. Mais d'entrée de jeu, toute pilule dont le rôle va se limiter à faire en sorte qu'il n'y ait pas rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule est licite. Toute pilule qui va rompre...
Mais ça veut dire que le résultat est le même.
Oui, le résultat est le même, mais à quel moment vous intervenez? L'un des objectifs majeurs de la loi musulmane est non seulement de préserver la vie, mais de la promouvoir aussi. Maintenant, si vous arrêtez la nidation, il est vrai que la chose n'a pas atteint un degré hyper important, mais il n'en demeure pas moins que vous avez rompu quelque part les premiers pas d'une future naissance.
Alors, je suis auditrice et je vous écoute aujourd'hui. Et je prends la pilule et je ne connais pas quelle est sa fonction réelle de cette pilule. Est-ce qu'elle arrête l'anidation? Comment dois-je...
Eh bien là, ça c'est le rôle du médecin. Parce que le médecin, non seulement il est tenu de bien vous préciser ce que vous êtes en train de faire. Le médecin, il devrait assister le couple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, oui, l'Europe, l'Occident, on nous parle de contraception, on veut nous faire subir une pensée qui est purement occidentale et qui n'a rien à voir avec nous. Il y a quelques années de cela, le pur bonheur résidait dans le fait d'avoir une ribambelle d'enfants.
Oui.
Actuellement, le bonheur ne répond plus à la même logique. Le mariage est en train de reculer année après année. Vous prenez une jeune femme qui s'est mariée à 31 ans. Elle a à peine quelques années pour pouvoir procréer. Vous allez lui parler de contraception. Elle ne va pas du tout vous écouter. Donc, il y a
un certain nombre... Mais ça a prolongé aujourd'hui. On peut avoir un enfant jusqu'à 44 ans.
Oui, mais il y a beaucoup de risques et il y a beaucoup de contraintes aussi.
Oui, c'est vrai.
Sauf que...
En Italie, une grand-mère est tombée enceinte.
On a déjà vu ça bien avant. Mais,
oui.
Il y a un certain nombre de choses que nous devons définir. Le médecin doit jouer son rôle pleinement dans la mesure où, si moi, je vais voir un médecin et que je lui dise... J'ai envie, par exemple, d'adopter comme forme de contraception le retrait. Le médecin devrait avoir assez de maturité pour me dire, d'accord, voilà comment il faut faire et voilà ce qu'il faut éviter
d'accord.
de faire. Mmh. Et non de me dire, ah non, moi je vous prescris la pilule et ça s'arrête là.
D'accord.
Parce qu'il y a aussi un phénomène de consommation dans ce domaine. Mmh. Il y a certains médecins, la chose est très facile. Mmh. Vous voulez passer à la pilule. Allez, voilà la meilleure pilule qui soit sur le marché. Et puis, cette même pilule...
Puis le pouvoir pharmacologique aujourd'hui que l'on rencontre.
Ça fait l'objet de toutes les... C'est un domaine qui fait l'objet d'une guerre implacable parce qu'actuellement, on ne parle plus de pilule du lendemain, mais de pilule du surlendemain.
Mm-hmm.
Que veut-on par la contraception ? Aider des gens à avoir une vie équilibrée et meilleure ou bien favoriser ce qu'on appelle l'amour libre, c'est-à-dire dévergonder la société,
Monsieur
si je regarde Chekat, ça d'un point de vue religieux.
Ces 10 dernières années, tous ces érudits justement musulmans, ils se rencontrent donc avec des spécialistes, ils sont sortis de leur isolement, il y a des congrès, donc c'est plus des sujets tabous, on en parle, c'est depuis maintenant une dizaine d'années.
De toute manière, les premiers musulmans en parlaient ouvertement. Mm-hmm. C'est peut-être la grande époque coloniale qui a coupé court à un flux civilisationnel qui nous a plongé dans l'état dans lequel nous nous trouvons actuellement.
L'Église aussi, elle a des...
Mais actuellement, moi, je ne peux que saluer la démarche qui a été entreprise par l'Association algérienne du planning familial parce que, justement, la contraception peut... améliorer les conditions de vie, surtout en milieu rural. Il faut que l'on fasse en sorte qu'il n'y ait plus de tabou, mais il ne faut pas non plus que l'on arrive au point où des préservatifs seraient donnés en promotion dans des paquets de pop-corn, quand même.
Oui,
c'est-à-dire
c'est
qu'il faut un
débat.
Juste milieu.
D'accord.
Ça, c'est un autre débat.
En tout cas, merci. La semaine prochaine, certainement, nous donnerons l'adresse électronique pour que les auditeurs puissent nous écrire.
Inch'Allah.
Parce que c'est une émission qui est pour les auditeurs et je suppose que beaucoup de questions seront intéressantes à débattre. Merci et à la semaine prochaine.